un soir. 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h21 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Un piratage informatique a donc visé une cinquantaine de lycées de région parisienne via leur espace numérique de travail. On appelle ça l'ENT. Le message parlait de faire exploser l'établissement au nom de l'État islamique avec une vidéo de décapitation. Cette semaine, on a aussi appris l'arrestation de trois personnes, trois jeunes de 20 à 23 ans soupçonnés de la cyberattaque contre France Travail, l'Expo l'Emploi, ce qui nous a donné envie de poser la question notamment de notre vulnérabilité face aux attaques informatiques. Et pour en parler, Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des risques numériques et vice-président du cabinet Edmind Partners. Merci beaucoup d'être en direct sur Europe 1. Alors, d'abord, ce piratage des ENT, sur lequel on sait finalement assez peu de choses pour l'instant, si ce n'est que le compte d'un jeune a été piraté. Ça a permis d'envoyer des messages à d'autres élèves. Ce type d'espace de travail, il n'est pas sécurisé?
Alors en fait, on a hélas l'expérience, puisque l'année dernière, trois jeunes ont été mis en examen suite à un piratage qui est extrêmement comparable. En l'espèce, ils avaient envoyé un message à l'un d'un lycéen prenant l'apparence d'un jeu vidéo, disant qu'il pourrait ainsi télécharger un service lui permettant de progresser dans un jeu vidéo. Le jeune en question a téléchargé l'application, quoi, le logiciel, et à ce moment-là, il s'avère qu'il y avait dedans un outil lui permettant aux attaquants de prendre le contrôle de son ordinateur, donc d'accéder aux éléments pré-enregistrés. C'était le cas évidemment des identifiants, mots de passe à son espace numérique de travail, et donc ainsi ils ont pu se substituer à lui et communiquer à sa place, puisque le principe même de ces espaces numériques de travail est fait de partager entre parents, élèves, enseignants, et donc c'est un organe de communication, et dès lors qu'on a pris le contrôle de votre identité dans cet espace, on peut parler à votre place et ainsi atteindre une population assez large.
Quand Gabriel Attal dit qu'il va traquer et sanctionner les auteurs, ça vous paraît réaliste ?
Alors, en tout cas, la preuve, c'est qu'on a pu documenter que les personnes qui étaient à la manœuvre lors des intrusions l'année dernière. Donc maintenant, les investigations vont être conduites pour voir si quel a été le mode d'intrusion, quelles ont été leur motivation, puisque dans le cas précédent, c'était des jeunes qui disaient qu'ils cherchaient de l'adrénaline, en tout cas n'étaient pas liés à une mouvance terroriste, malgré la violence de leurs propos. Et là, en l'espèce, nous avons cette fois-ci la publication d'une vidéo de décapitation, qui donc évidemment va susciter le déclenchement de mise en œuvre, enfin de mise en responsabilité juridique, parce que déjà l'intrusion dans les systèmes est évidemment un délit, et c'est le cas de l'apologie ou en tout cas des appels à des actes violents.
Alors Nicolas Arpagian, en ce qui concerne l'attaque contre France Travail, la technique utilisée est différente, on appelle ça le phishing ou hameçonnage. Les pirates ont là réussi à se procurer les codes d'agents. Donc c'est un autre système, et ça c'est un truc auquel on est confronté nous tous quasiment au quotidien.
Alors en fait, vous avez raison, c'est le même dispositif, c'est-à-dire que le pirate a voulu usurper l'identité d'agents légitimes, de personnes qui travaillent au sein de cette institution. Par contre, le fait qu'il y soit parvenu est déjà une performance, ou en tout cas un problème. Par contre, cela pose plusieurs questions quant à l'organisation même de France Travail. Déjà, même si c'est une ou deux personnes dont les comptes ont été piratés, est-ce qu'il est normal qu'on puisse ainsi capter l'intégralité des dossiers des personnes inscrites à France Travail?
43 millions de personnes potentiellement concernées, je rappelle.
Voilà, un peu comme dans une banque, le chargé de clientèle n'a la possibilité de consulter que les comptes qui relèvent de son portefeuille. Il ne peut pas consulter les comptes de son collègue d'à côté. C'est le principe d'un cloisonnement qui est bienvenu, parce que précisément quand des piratages de cette sorte surviennent, ça évite que ainsi on puisse naviguer à sa guise dans l'intégralité de la base. Deuxième question, comment est-ce que l'on peut exfiltrer l'ensemble de ces bases de données, même sur une période de plusieurs semaines? Ça veut dire qu'en principe, les systèmes de sécurité sont aussi bâtis pour détecter non seulement les intrusions, mais les sorties, les exfiltrations de données. Sur ce volume, ça pose question sur la présence et le paramétrage de ces outils de supervision. Troisième question, on a des données qui portent sur 2 décennies, 20 ans, c'est bien au-delà de la période recommandée par la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, pour conserver des données personnelles. Quelle est la justification de conserver les dossiers de personnes qui, un temps, gens, il y a plusieurs années, sont passés par France Travail ou ont cherché un emploi par France Travail. Il va falloir expliquer la raison d'être de cette conservation de données qui, évidemment, fragilise les personnes concernées. Pourquoi ? Parce que les données que l'on confie à France Travail lorsqu'on s'y inscrit, ce sont ses vraies données, son vrai nom, son vrai numéro de téléphone, en tout cas celui qu'on utilise régulièrement, c'est bien son adresse mail et son numéro de sécurité sociale et d'identifiant France Travail. Bref, il va falloir quand même s'interroger sur la politique de cybersécurité au sein de cet établissement.
Oui, j'imagine que cette cyberattaque contre France Travail, c'est le moment ou jamais peut-être de tout reprendre à zéro en termes de cybersécurité, parce que vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup de problèmes à régler. Le point commun avec cette attaque aussi contre les lycées dont on parlait juste avant, ce sont des organes de l'État. On a aussi beaucoup parlé de ces attaques informatiques contre des mairies, par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen de les éviter ?
Alors, il y a déjà, en tout cas, c'est prévisible d'avoir une hausse des attaques des environnements numérisés. Pourquoi ? Parce que le numérique a progressé, s'est intensifié dans nos organisations, et donc l'exposition au risque a d'autant plus, c'est d'autant plus accru parce que nous avons des services administratifs, commerciaux, universitaires dans les domaines de l'économie, des relations interpersonnelles qui sont numérisées. Donc, évidemment, ça, de fait, il y a une exposition intensifié au risque. Par contre, c'est là où la réglementation va fixer des obligations, d'une part sur certains types de données, les données personnelles, et c'est la raison pour laquelle la responsabilité d'un gestionnaire, d'une entité qui gère, pilote des données personnelles va pouvoir être mise en cause en cas de perte ou de vol, c'est le cas. Il y a une réglementation assez exigeante et qui prévoit éventuellement des sanctions de manière à inciter à des investissements dans ce domaine. Et puis, il y a des réglementations qui essayent de couvrir des domaines sectoriels, les données de santé, des données concernant ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire ces entreprises qui sont dans des secteurs dont la défaillance mettrait en péril la collectivité. Par exemple, un grand fournisseur d'énergie, dès lors qu'il cesserait ou son activité serait perturbée, ce n'est pas uniquement la perte économique liée à l'arrêt de son activité, c'est évidemment le fait qu'il n'y a plus d'électricité pour faire fonctionner les banques, les hôpitaux, même les domiciles. Vous voyez qu'en cascade, il y a des effets induit. Et donc, c'est la raison pour laquelle la réglementation française, européenne, fixe des obligations. On va avoir aujourd'hui près de 10 000 entreprises, à partir d'octobre prochain, qui vont devoir documenter des procédures particulièrement exigeantes. Alors évidemment, elles empiètent un peu sur l'autonomie du dirigeant, parce que il ne peut pas ou elle ne peut pas considérer que, par exemple, il assumerait la perte qui surviendrait en cas de cyberattaque. On lui dit non, le caractère stratégique de votre activité au sein de la collectivité nationale fait que vous avez des obligations d'investissement. C'est évidemment, il va falloir trouver les têtes bien faites pour procéder à ces déploiements, adopter des technologies et puis des procédures, et enfin les adapter à chaque fois qu'une organisation évolue. Entreprise, une administration, c'est un corps vivant, il faut l'accompagner également d'un point de vue numérique.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian, c'était très précis. Vous êtes président du cabinet de Mindpartners, spécialiste des risques numériques et auteur du livre Innocence à crédit aux éditions Mareuil. Dans un instant, les comptes ne sont pas bons. On va parler du déficit public qui dérape et de ce que prévoit le gouvernement pour y remédier. Pour réagir, le 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir.